Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si je vous dis équilibre sylvo-cinégétique, cela ne vous dira peut-être rien à première vue. Il s'agit, pour faire simple, d'un équilibre savant à combiner entre les populations d'animaux et les habitats forestiers. Sont concernés ici les cerfs, les sangliers, les chamois ou encore les chevreuils, des espèces sauvages qui permettent la régénération naturelle et durable de la forêt, mais qui, au-delà d'un certain nombre, provoquent l'inverse. Pour cette nouvelle émission Éclairage en coproduction avec l'ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, je vous propose de vous pencher de près sur cet équilibre fragile à maintenir. Comment anticiper l'évolution, par exemple, du nombre de sangliers ou de cerfs? À partir de quel seuil parle-t-on de surpopulation, même si le terme n'est peut-être pas tout à fait le bon? Et comment sont établis ces seuils? Pour répondre à nos questions, François Klein est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous travaillez à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, à la Direction des études et recherches concernant les cervidés et les sangliers. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite, François Klein. On a coutume de dire que lorsqu'une espèce pullule, elle finit par s'auto-réguler elle-même avec l'arrivée d'épidémies qui déciment une partie de l'espèce concernée. Cela participe-t-il à cet équilibre sylvo-cinégétique où aujourd'hui, l'exploitation que l'homme fait de la forêt fait qu'il est préférable que l'homme intervienne un peu en amont pour limiter la place de certaines espèces?
Oui, mais il est peut-être déjà utile de donner quelques informations sur ce qu'on appelle effectivement l'équilibre agro-sylvo-cinégétique ou l'équilibre sylvo-cinégétique, suivant qu'on parle de l'équilibre entre les milieux et toutes les espèces ongulées ou seulement les ongulés forestiers, pour le dernier terme, sylvo-cinégétique. C'est un terme qui est très couramment utilisé, qui est pourtant très compliqué à définir. Sur le plan réglementaire, on l'a défini, le code rural, le code forestier le définissent, comme étant une situation dans laquelle les populations ongulées sauvages sont diversifiées en grand nombre, mais ne compromettent pas le fonctionnement de la forêt ou le fonctionnement de l'écosystème forestier, voire même au-delà, agricole. Sur un plan purement forestier, l'équilibre sylvo-cinégétique, donc entre la forêt et la faune sauvage, si on traduit en termes plus communs, correspond à une situation dans laquelle l'état des populations ne compromet pas la rentabilité de l'exploitation forestière. On voit que le législateur a limité cette notion d'équilibre à une notion économique et moins une notion technique. Alors, c'était une nécessité. D'ailleurs, c'était son règlement qui date de 2005 seulement, c'est tout à fait récent. Mais la grande difficulté sur le terrain, c'est bien de les caractériser, ces états d'équilibre. On ne sait pas, en réalité, définir l'équilibre. Suivant qu'on a affaire à des forestiers purs et durs qui voient la régénération forestière comme étant un maximum de jeunes plants de différentes essences ou espèces forestières sur le peuplement, ou bien des forestiers un petit peu moins purs et durs qui ont une sensibilité un peu cinégétique, un peu chasseur, on voit que leur réaction va être différente aux différentes situations. Inversement, pour le chasseur, l'équilibre sylvo-cinégétique ne se mesure pas par rapport à la forêt, il se mesurera par rapport à la faune. Et finalement, la grande difficulté qu'on rencontre, nous techniciens, puisque c'est notre métier, c'est d'arriver à trouver des indicateurs qui permettront de caractériser l'état d'équilibre, qui doit être durable, évidemment, dans le temps, qui doit être aussi largement respecté à l'échelle nationale, sur le plan spatial, et caractériser cet équilibre qui est, par définition, extrêmement variable. Et cette notion de variabilité dans le temps et dans l'espace qui fait que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une situation tout à fait satisfaisante parce que le peuplement forestier n'est, par exemple, pas très sensible, parce que, finalement, les plantes qui pourraient être mangées par les ongulés ne sont pas là. Et demain, au même endroit, parce que la forêt se rajeunit, avoir ces jeunes plants qui sont sensibles et qui donc sont mangés. Et donc, on voit que cette notion d'équilibre, c'est vraiment de loin quelque chose d'extrêmement complexe, pas aussi simple à définir. Et c'est plutôt en fait un compromis entre des responsables forestiers, agriculteurs, chasseurs, compromis qui va être autant technique que humain, hein, que uniquement une donnée technique.
Donc c'est un équilibre qui n'est pas conditionné par les activités humaines, mais qui est plutôt encadré alors?
C'est un équilibre qui est conditionné par les activités humaines, qui est conditionné par le climat, qui est conditionné par le milieu, qui est conditionné par... Donc c'est une situation, moi le terme d'équilibre d'ailleurs je ne l'aime pas trop, je préfère parler de relation entre les ongulés et la forêt, relation qui, suivant le niveau de population, le niveau d'effectif présent, à un niveau local, hein, il faut bien parler d'échelle locale, hein, c'est pas Quelques mots simplement sur ce qu'on appelle le domaine vital, donc l'aire de vie de cervidés, enfin donc cerfs, de chevreuils, de sangliers. Un animal donné, un individu, vit au cours de sa vie sur des superficies qui, suivant l'espèce, varient de quelques dizaines d'hectares pour le chevreuil à quelques milliers d'hectares pour des cerfs adultes ou des sangliers adultes. Donc c'est quand même des zones extrêmement restreintes. Et c'est à cette échelle qu'on va constater ou pas une situation d'équilibre, au contraire de déséquilibre, ou d'impact ou pas d'impact. Et en vivant, ou pour vivre, cet animal consomme tout un tas d'alimentations, les cervidés donc, qui sont des ruminants, alimentation végétale, les sangliers aussi alimentation végétale, mais parfois sous terre, ils mangent beaucoup de rhizomes, de bulbes par exemple. Cette consommation, elle est sélective. Qui dit sélective dit qu'elle s'oriente plus spécifiquement sur des espèces végétales privilégiées, préférentielles. Et si la population d'ongulés augmente, la pression sur ces espèces préférées va augmenter. Et dans certains cas, ces espèces préférées vont être réduites en effectif ou en présence, voire même disparaissent complètement de la flore naturelle. Quand ce sont des espèces qui n'intéressent personne, à part les écologistes, que nous sommes d'ailleurs, nous chercheurs, personne ne s'en rend compte. Quand il s'agit d'espèces qui sont au contraire économiquement importantes pour le forestier, qui renouvelle sa forêt avec par exemple du chêne, avec par exemple du sapin, ou l'agriculteur qui exploite des parcelles, évidemment l'impact est tout à fait différent et perçu de façon tout à fait différente. Et dans certains cas, c'est vrai qu'une pression très très forte peut localement provoquer une incapacité de la forêt à se renouveler. Et à ce moment-là, on peut parler de déséquilibre, mais il est beaucoup plus facile de constater un déséquilibre que de prévoir un équilibre. C'est toute la difficulté de ce terme d'équilibre forêt-gibier, équilibre agro-sylvo-cynégétique, qui est effectivement une notion plus juridique, plus réglementaire qu'une notion technique.
Par déséquilibre, donc, vous faites référence en fait à une population animale en croissance. Les cerfs, les chevreuils et les sangliers en France actuellement se développent ou on observe un tassement? Quelle est la situation démographique, si je puis dire, de ces espèces? J'imagine qu'elle est différente en plus selon les territoires, selon les espaces.
Alors, vu de loin, la situation nationale, c'est une situation dans laquelle les ongulés, au sens large. Alors quand je parle d'ongulés, je parle de sangliers, je parle de cerfs, je parle de chevreuils, je parle de chamois, je parle de mouflons et je parle du cousin du chamois qui est l'isard dans les Pyrénées et aussi du bouquetin. Là, ce sont grosso modo tous les ongulés en France. Se rajoute à ça des ongulés introduits que sont le daim ou le sica, mais qui sont très très marginaux par rapport aux autres espèces. Donc les populations d'ongulés ont, on va dire, explosé en l'espace de 40 ans en France, avec des coefficients multiplicateurs qui vont de 3 à 4 jusqu'à 10 suivant les espèces, en l'espace de 40 ans. Alors, on n'a pas de mesure des effectifs présents, on ne sait pas mesurer ces effectifs, on ne sait pas compter les animaux sauvages, c'est une particularité des milieux fermés. Par contre, on a quelques informations et quelques indicateurs qui nous permettent de voir comment les populations évoluent et de suivre des tendances. Et un indicateur extrêmement intéressant qu'on utilise beaucoup, c'est le prélèvement par la chasse. Parce que finalement, de façon durable, enfin sur un pas de temps suffisamment long, cet indicateur traduit assez fidèlement l'évolution des effectifs. Si on prend l'exemple du chevreuil, par exemple, entre il y a 40 ans et aujourd'hui, on a multiplié prélèvement par 5. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à plus de 500 000 chevreuils prélevés en France. Et la progression a été quasiment constante entre 1970, on va dire, et les débuts des années 2000. Quasiment constante. Et effectivement, depuis 2000, et je reviendrai sur cette question après, depuis 2000, les prélèvements et sans doute les populations de chevreuils semblent, à l'échelle nationale, stagner. Le cas du cerf est à peu près similaire, sauf que la population a continué à croître. Et aujourd'hui, alors qu'on prélevait 10 000 cerfs dans les années 60-70, aujourd'hui on en prélève plus de 50 000. Sangliers, même tendance, aujourd'hui on prélève plus de 500 000 sangliers en France. Voilà, toutes les espèces ont progressé de façon assez régulière avec des prélèvements qu'on suivit, donc qui manifestent tout à fait la volonté du monde de la chasse d'essayer de stopper cette progression, parce que ces espèces, tout le monde le sait, ne sont pas sans poser problème.
Et comment on explique cette explosion justement de ces espèces?
Alors, on l'explique déjà par le fait qu'on est parti de très bas. Il faut se situer dans l'après-guerre, c'est-à-dire dans les années 50, 1950. Les populations, pour de multiples raisons, les populations d'ongulés étaient extrêmement faibles en France, en particulier le cerf et le chevreuil, extrêmement faibles parce que, ayant subi une pression de chasse extrêmement forte, les périodes de guerre sont aussi des périodes où tout le monde se sert sur, pardonnez-moi l'expression, sur la bête. Et donc, il y a eu effectivement un effondrement des populations, enfin, en tout cas, des populations extrêmement basses dans les années 1950. À un point que tous les partenaires gestionnaires des milieux ruraux de l'époque, que ce soit les forestiers, les agriculteurs, les chasseurs, je parle au niveau gouvernemental, ont souhaité que ces populations augmentent. Et on a mis en place un certain nombre d'outils et de mesures pour effectivement faire remonter ces populations, ces effectifs. La première et la plus efficace, c'est incontestablement l'organisation de la chasse. On est passé d'une chasse qu'on peut appeler de cueillette à une chasse organisée. Un outil pour organiser cette chasse, c'est le plan de chasse. C'est-à-dire qu'avant 1963, c'est une date importante pour les ongulés, la chasse était encadrée par des périodes et uniquement des périodes qui étaient extrêmement courtes dans l'année. À partir de 1963, on a élargi les périodes de chasse, mais on a limité le prélèvement par une autorisation de tuer un certain nombre d'animaux sur chaque territoire. C'est ce qu'on appelle le plan de chasse.
Avec un système de bagues ?
Avec un système de bagues, qui est un espèce de congé de transport, en fait, mais qui est surtout un arrêté préfectoral qui autorise le titulaire du droit de chasse sur un territoire donné à tuer X chevreuils, Y cerfs et des chamois. Alors, ce plan de chasse mis en place en 1963, il s'est progressivement mis en place. Ça a été généralisé pour cerfs et chevreuils en 1979. Ensuite, il a été introduit pour les espèces d'ongulés de montagne. Et aujourd'hui, on commence à mettre en place un plan de chasse ou un plan de gestion pour le sanglier, parce que le sanglier n'était pas concerné, étant classé nuisible dans un certain nombre de départements. Alors, dans les années 1960-70, le plan de chasse a eu un effet très très positif sur la progression des effectifs, parce qu'il a conduit à limiter le prélèvement par les chasseurs. Et c'est la première mesure, cette organisation de la chasse avec le plan de chasse, pour la progression des populations. Autre mesure importante, ce sont toutes les opérations de renforcement de population, voire même de réintroduction qu'on a organisées à partir d'un certain nombre de territoires en France. On capturait les animaux en surnombre dans ces territoires faits pour ça, et on les relâchait dans des structures organisées pour reconstituer les populations. Et si on dit qu'aujourd'hui, plus de la moitié des populations de cerfs en France sont issues de relâchés ou de réintroductions qui ont été réalisées entre 1960 et 1990, en gros, tout le sud de la France a été colonisé par des relâchés. Il n'y avait plus de cerfs du tout au sud de la Loire.
Donc il y avait quand même un déficit critique.
Il y avait un déficit, donc on est parti de très bas.
Oui.
Et donc, multiplier par 2 ou par 3 ou par 4, quelque chose qui n'est pas important, c'est beaucoup plus facile que multiplier par 2 ou par le même coefficient des populations très très fortes. Donc cette progression, elle n'est jamais que ce qu'on appelle artefactuelle. On est parti de très bas, on a augmenté les populations très très facilement. C'était une nécessité, souhaitée par tout le monde l'a accompagné, y compris ceux qui aujourd'hui s'en plaignent à juste titre. Ça a été volontaire et ça a très bien réussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'ensemble des partenaires s'accordent pour dire la même chose. Le plan de chasse qui a été l'outil pour faire progresser les populations doit devenir progressivement l'outil pour stopper la progression, voire même pour faire diminuer les populations.
Donc développer le nombre de bagues, par exemple.
Oui, ça va plus loin que ça, mais en tout cas, augmenter le prélèvement efficace par les chasseurs, pour stopper la progression là où c'est nécessaire. Alors,
qu'est-ce qu'on appelle un prélèvement efficace ?
Le prélèvement d'un animal dans une population, c'est déjà un prélèvement efficace. Mais il est complètement différent de prélever un jeune animal non reproducteur ou prélever un animal adulte reproducteur, par exemple. Ou il est complètement différent de prélever beaucoup d'animaux, de répartir spatialement un prélèvement donné, en insistant lourdement là où il y a beaucoup d'animaux, et puis en étant plus léger là où il y a peu d'animaux. Et tout ça, ça s'organise. Pratiquement, on apprend aujourd'hui à organiser le prélèvement. Bon, quand on dit aujourd'hui, c'est depuis une quinzaine d'années, mais à l'échelle de la période qu'on vient de vivre là, les 50 années qui nous ont amenés à des populations actuelles, c'est encore récent. On organise aujourd'hui le prélèvement pour que localement, on prélève effectivement le nombre d'animaux suffisant pour faire stopper des progressions. Alors, ça se fait avec des mesures techniques. Notre travail à nous, c'est justement d'essayer d'imaginer les bonnes mesures. Mais ça se fait aussi parfois dans le cadre de vrais conflits entre les différents partenaires de la gestion de ces espèces et des habitats, que sont, pour simplifier, forestiers, agriculteurs et chasseurs. Forestiers, agriculteurs considèrent qu'ils subissent, c'est souvent vrai dans les situations de conflit, la présence des ongulés. Chasseurs considèrent qu'ils ont la responsabilité de maintenir ces populations sauvages comme étant un patrimoine. Encore une fois, on parle d'équilibre. Le compromis entre les deux, c'est le préfet qui le trouve. Il fait un peu... Je ne vais pas dire que c'est une caricature, évidemment, mais il coupe un peu la poire en deux en disant que les forestiers sont un peu excessifs dans un sens, les chasseurs un peu excessifs dans l'autre. Et la bonne mesure, c'est le milieu. Mais ça, c'est la paix sociale, ce n'est pas technique. Et ça ne résout pas les solutions. Ça ne résout pas les problèmes. Pour résoudre les problèmes, il faut avoir des outils un peu plus solides. Et voilà. Mais une autre mesure qui contribue à stopper la progression, vous avez posé la question tout à fait au début, et j'ai dit que j'y reviendrai, c'est l'autorégulation des populations.
Je parlais des épidémies.
Vous parlez des épidémies, mais c'est une forme d'autorégulation. Mmh. En fait, les études récentes que nous pouvons mener aujourd'hui avec le Centre national de recherche scientifique, CNRS, ou l'Institut de recherche agronomique, et nous, ONC, conduisons des travaux très solides, qui ont une réputation mondiale, hein, sur la dynamique de ces populations sauvages. Par dynamique, on entend le fonctionnement démographique de ces espèces. Est-ce qu'une population augmente, diminue ? Qu'est-ce qui fait qu'elle augmente ? Qu'est-ce qui fait qu'elle diminue ? Et quels sont les facteurs de cette augmentation, de cette diminution ? On a identifié en fait deux grands paramètres. Le premier paramètre, c'est la reproduction. une population composée de mâles et de femelles. Chaque année, elle donne des jeunes. Ces jeunes vivent ou meurent. Ça introduit un deuxième paramètre qui est la survie. Et toute la question qui est posée aux dynamiciens de population, c'est finalement, qu'est-ce qui est important dans l'accroissement d'une population? Est-ce que c'est la survie ou est-ce que c'est la reproduction? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce qui pèse sur l'un et sur l'autre? Un des premiers paramètres qu'on a pu identifier, c'est justement la densité de population. À milieu égal, c'est-à-dire à disponibilité alimentaire égale, pour faire simple, parce qu'il n'y a pas que la disponibilité qui va jouer, à milieu égal, la capacité, on appelait ça pendant longtemps la capacité écologique, mais la capacité du milieu permet à un certain nombre d'animaux de vivre sans difficulté. Si la population passe au-delà d'un certain niveau, alors il se met en place tout un tas de mécanismes qu'on appelle, nous, scientifiques, des mécanismes densité dépendants, qui affectent à la fois la reproduction et la survie.
Donc le phénomène d'autorégulation dont vous parlez.
Le phénomène d'autorégulation, alors, c'est pas de l'épidémie. C'est beaucoup plus intime que ça, c'est que tout simplement, quand il y a une certaine disponibilité alimentaire qui doit être partagée entre 10 ou au contraire 100 animaux, la part individuelle va diminuer quand il y a 100. Et au-delà d'une certaine population, la part individuelle est trop faible pour assurer les besoins de l'individu.
La survie de l'individu?
Alors, sans aller jusqu'à la survie, simplement déjà la croissance.
Oui.
Et si on prend l'exemple du chevreuil, qui est vraiment extrêmement bien connu aujourd'hui, sur ce plan-là, l'effet de la densité peut affecter le poids de un tiers. C'est-à-dire qu'un chevreuil à un an pèse 15 à 18 kilos. Dans de mauvaises conditions, il peut peser que 10 kilos.
Donc
c'est le même chevreuil, le même milieu. Simplement, la différence entre les deux, c'est que les densités sont beaucoup plus importantes dans le deuxième cas. Et cette densité-dépendance-là va conduire à ce qu'au fur et à mesure que l'effectif augmente, la reproduction diminue.
Ralentir.
La reproduction individuelle, on appelle ça la fécondité, nous. C'est-à-dire le nombre de jeunes par femelle. Et la survie va être affecté aussi. Ce qui fait que, si on imagine l'évolution numérique d'une population, et qui démarrait d'un certain effectif, par exemple, imaginons une introduction d'individus dans un milieu complètement vierge, bon, la population met quelques années avant de démarrer, et puis ensuite, il y a un accroissement extrêmement rapide, lié à une optimisation des paramètres de survie et de reproduction. Et cette reproduction rapide, cet accroissement rapide, va se prolonger un certain temps, jusqu'au moment où on va commencer à entrer dans ce qu'on appelle la densité-dépendance, jusqu'à arriver à un moment donné où les mortalités équilibrent les naissances, et on n'a plus d'accroissement. C'est ce qu'on appelle la capacité maximale ou la densité maximale, au-delà de laquelle la population n'ira plus. Alors, c'est jamais un schéma aussi caricatural, mais on le constate. Et à partir du moment où on arrive à ce seuil, ou même quand on s'en approche, la population devient extrêmement fragile et sensible à des phénomènes type épidémie, parce qu'en fait, les animaux sont sensibles, sont fragiles, et peuvent attraper n'importe quelle maladie. Alors, je caricature, je vois ça du côté humain, peut-être, c'est pas comme ça que ça se passe, mais on imagine qu'un animal qui pèse 10 kilos, alors que son cousin ou son frère pèserait 18 kilos, n'a pas la même résistance à toute affection ou à tout pathogène, et donc peut s'écrouler en cas de difficulté. Et de cette notion de densité-dépendance, qui est vrai, qu'on a maintenant mesuré sur le chevreuil, sur le cerf, qu'on a mesuré aussi sur le chamois ou sur le mouflon, est née une notion de gestion qu'on appelle adaptative, qui consiste à mesurer l'état des populations avec un certain nombre d'indicateurs simples qui vont nous dire, ben voilà, l'indicateur par exemple poids des jeunes, il augmente et diminue. Imaginons le cas d'une population qui sera en expansion. On va peser les jeunes, les animaux, dans des protocoles standardisés. On s'attend, et on le vérifie généralement, on s'attend à ce que, à partir d'un certain niveau de progression de la population, la masse corporelle commence à diminuer. C'est pour nous un signe qu'on arrive dans ce qu'on appelle la densité-dépendance. Alors, ce n'est pas encore dramatique, mais c'est un clignotant. Si en même temps, on a un autre indicateur qui nous dit ben voilà, la consommation des espèces végétales recherchées par le forestier est elle-même affectée, deuxième clignotant. Et finalement, aujourd'hui, la gestion des populations, la gestion que nous préconisons, nous, c'est une gestion qu'on appelle adaptative, basée sur le suivi, le relevé, qu'on appelle indicateur de changement écologique. Donc, des paramètres biologiques dont on a pu démontrer par les études qu'on a faites, parce que ça ne tombe pas du ciel, on a pu démontrer que c'est des paramètres qui réagissaient bien aux évolutions de population, qui réagissaient bien à l'évolution de l'état d'équilibre entre la population et son habitat, et qui vont nous dire à partir de quel moment ça commence à réagir. Et il se passe qu'en pratique, quand on commence à voir ces indicateurs virer à l'orange, hein, ils passent du vert à l'orange, c'est aussi en général à ce niveau-là que commencent à apparaître les difficultés forestières ou agricoles.
Alors, votre travail consiste entre autres à modéliser justement ce développement des espèces, vous nous le disiez, à travers notamment l'étude donc, du poids des jeunes individus, l'observation, j'imagine, hein, les traces que l'on peut retrouver, le prélèvement. Mais aujourd'hui, est-ce que ces études vous permettent aujourd'hui de voir à long terme, c'est-à-dire de savoir quel prélèvement, quelle gestion organiser dans les années à venir?
Alors, cette notion de gestion adaptative, enfin, où tous ces travaux-là portent évidemment sur la compréhension des mécanismes démographiques, mais portent aussi sur la compréhension de l'impact de facteurs qu'on ne maîtrise pas du tout, que sont par exemple le climat. Une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce que avec les changements globaux qui sont annoncés et qu'on constate déjà de fait, est-ce que ça aura un impact sur les populations animales? Est-ce qu'elles vont continuer à progresser comme elles ont progressé jusqu'à présent, en plus des facteurs limitants que sont le milieu, hein? Ou bien est-ce que finalement ces populations vont être indifférentes? C'est une série de travaux qui sont de loin pas terminés et pour lesquels on n'a que des réponses très très partielles. Ce qu'on peut constater, c'est qu'avec ces changements globaux, apparaissent des événements exceptionnels, qu'on appelle tempêtes, qu'on appelle canicules, qui sont de plus en plus fréquents. Et ces événements exceptionnels, on en a vécu un en 1999 avec les tempêtes Lothar et Martin, on a vécu les canicules 2003-2005, on a pu constater que les tempêtes n'avaient pas eu d'effet sur la dynamique des populations, que par contre les canicules ont un impact direct et négatif sur la démographie. Ça veut dire que non seulement les deux canicules 2003-2005, toujours sur le chevreuil, parce que c'est une espèce qu'on a beaucoup étudiée et qu'on connaît très très bien, avaient eu un impact extrêmement marqué et ont affecté les populations encore aujourd'hui.
Ce qui explique la stagnation de la population des chevreuils.
Ce qui participe à expliquer localement la stagnation. Ce n'est pas généralisé, parce que si on prend les populations alpines ou les populations homogènes, elles n'ont sans doute pas été très, très sensibles aux canicules 2003-2005, parce que c'est un événement qui n'a pas été très sensible. Par contre, si on prend des populations de l'ouest de la France, oui, ça a joué. Ça, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, et a priori, on se dit que la gestion des populations va être de plus en plus compliquée, parce que ces événements amènent un bruit supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait un mécanisme bien régulier, avec peu d'aléas et peu d'aléas interannuels, et maintenant, on a ce phénomène complémentaire. Donc, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. De là à dire qu'on a une réponse sur la gestion, ce qu'on sait, c'est qu'il faut maintenir une pression extrêmement forte, parce que la dynamique des populations sauvages est finalement beaucoup plus forte que ce qu'on pense. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le monde de la chasse, avec toute sa bonne volonté, sera en mesure demain de stabiliser les populations au niveau qui correspondra à ce que les autres partenaires souhaitent? Je parle des forestiers, je parle des agriculteurs, mais je parle aussi d'une façon générale de la société. Sur ces questions, on n'a pas encore de réponse. On sait qu'aujourd'hui, on est sans doute à un niveau global, national, qui pose problème. Il faut simplement replacer dans un contexte plus local. Le niveau national qui pose problème, ça ne veut pas dire que le niveau local pose problème. Je vais prendre l'exemple du cerf. Le cerf en France a multiplié son effectif par 5 en l'espace de 30 ans, a multiplié son aire de répartition forestière par 2. Ça veut dire qu'il reste encore aujourd'hui environ 50% des forêts françaises qui n'ont pas de cerf. Par contre, dans les 50% où il y a du cerf, il y a peut-être 10 à 15% de ces forêts-là qui sont fortement impactées par le cerf à un point que la régénération, le renouvellement forestier, n'est plus possible.
Il faudrait en délocaliser une partie?
Non, ce que je veux dire, c'est que sur ces 10-15% de forêts françaises qui sont effectivement fortement affectées, oui, il y a des équilibres. Mais ça veut dire qu'il y a 85% à contrario des forêts françaises dans lesquelles finalement on n'est pas en déséquilibre à cause du cerf. Alors, les forestiers ont peut-être un avis différent. Mais je parle des équilibres marqués avec des situations qui sont dramatiques. À un point, le renouvellement forestier est bloqué. Voilà. Donc si on regarde de loin, la situation est dramatique, ou en tout cas est très ennuyeuse en France. De plus près, on se rend compte que c'est beaucoup plus localisé, et les difficultés, il faut les gérer au niveau très très local. Et à contrario, ça veut dire qu'il y a de la place encore pour le développement de certaines populations. Ce qui gêne beaucoup les gestionnaires forestiers ou agricoles, c'est qu'ils ont un petit peu d'expérience et ils ont tout à fait raison. Ils se rendent compte, ils savent que quand une espèce nouvelle comme le cerf arrive quelque part, je parle du cerf parce que c'est le plus grand entre tous les ongulés, c'est celui qui mange le plus. Un cerf, ça mange 30 kilos par jour. C'est 30 kilos de matière verte par jour, c'est beaucoup. Et c'est un animal qui, indiscutablement, pose problème là où on ne fait pas attention à sa gestion. Et c'est souvent le cas. Mais c'est aussi, d'un autre côté, un animal extrêmement majestueux, peut-être le roi des forêts, enfin ça c'est ce qu'on écrit dans les livres, mais auquel les populations chasseurs, non-chasseurs, tiennent beaucoup, et qui, chaque fois qu'on est amené à faire un prélèvement de réduction parce que c'est nécessaire, amène à des revendications de la part des non-chasseurs, par exemple, qui disent « mais catastrophe, vous allez sacrifier les cerfs au banc des forestiers, sur le banc de la gestion forestière, les chasseurs, même chose, et finalement ça crée des conflits ». Mais en réalité, la situation, elle n'est pas aussi dramatique que ce qu'on présente au niveau national. Elle est au niveau local.
Au niveau local. Un autre animal qui a une beaucoup moins bonne image, c'est le sanglier. Malheureusement, juste une minute pour terminer, François Klein, puisque nous arrivons vraiment à terme de notre émission. On en a parlé, mais vraiment en filigrane au cours de cette émission. Quelle est la situation du sanglier aujourd'hui? Puisque effectivement, le terme de surpopulation est un terme qui, vous, justement, ne vous plaît pas, puisque en préparant cette émission, vous avez bien insisté sur l'aspect local dont vous venez à l'instant de parler aussi pour le cerf. Quelle est la situation rapidement pour le sanglier? Et puis on terminera ainsi, si vous voulez bien.
Le sanglier, c'est une espèce qui est extrêmement importante pour le monde de la chasse. C'est incontestable que c'est devenu une espèce que les chasseurs recherchent. C'est une espèce explosive, qui se multiplie extrêmement rapidement. Une espèce opportuniste, qui tire profit de toutes les situations favorables. Qui, de ce fait, est capable de progresser extrêmement rapidement et localement, dès qu'il trouve toutes les conditions favorables. Et un certain nombre de conditions favorables tiennent le respect par les chasseurs, qui organisent leur chasse et leur activité dans ce sens-là, mais aussi le milieu qui est favorable. Et cette espèce est sans doute celle qui pose le plus de problèmes, parce que explosive beaucoup plus que les autres, et surtout impacte non seulement l'agriculture, un peu moins la forêt, mais enfin l'agriculture surtout, impacte aussi la vie de la société avec les collisions sous les routes. C'est un problème dont on parle beaucoup. Et puis impacte aussi, globalement, la vie de la population à proximité des forêts, avec des sangliers qui viennent dégrader les jardins, avec des sangliers qui viennent dégrader les pelouses ou les golfs ou les terrains de foot. Voilà. C'est une espèce qui ne concerne pas que le chasseur, ne concerne pas que la relation chasseur-agriculteur. Une espèce qui concerne l'ensemble, finalement, de la population rurale et même parfois citadine, périphérique. Et donc, qui aujourd'hui est une vraie espèce problématique, localement, je répète, mais pour lesquels il faut trouver des outils de gestion qu'on n'a pas encore complètement aujourd'hui.
Le prélèvement seul ne suffit pas.
Le prélèvement seul, là où les chasseurs sont encore en nombre suffisant, parce que ça c'est un vrai problème, le nombre de chasseurs en France, ça pèse. Là où les chasseurs sont en nombre suffisant et là où il y a une vraie volonté de réguler les populations, on y arrive. Mais dès qu'on arrive dans des contextes, par exemple citadins, où la chasse n'est pas possible, ou en tout cas extrêmement compliquée, ou des contextes où le nombre de chasseurs a diminué parce que l'exode rural a fait qu'il y a moins de chasseurs, les chasseurs sont beaucoup issus du milieu agricole, eh bien, on se trouve dans des situations qui peuvent être problématiques et qui, effectivement, seront encore plus problématiques demain. Là aussi, le sanglier, c'est une espèce qui est à gérer très localement. En France, il y a peut-être entre 3 et 5% des communes qui sont effectivement impactées très fortement par le sanglier. Donc, on parle d'un problème national, mais c'est en fait un problème sur 3 à 5% des communes. C'est un travail qui est fait par la Fédération nationale des chasseurs et qui montre très bien que ces problèmes sont tout à fait localisés, mais on n'est encore pas suffisamment armé aujourd'hui pour faire face à ces démographies galopantes. Et on ne comprend pas encore très très bien, j'ai beaucoup parlé de chevreuil, mais on n'a pas les mêmes connaissances sur le sanglier. Et ce qui caractérise surtout le sanglier, c'est sa faculté à s'adapter à la pression de chasse, s'adapter au climat, s'adapter à toutes les situations, à une vitesse qui est finalement tout à fait inimaginable. Donc on sait que demain, on parlera encore du sanglier. Malgré la mise en place de mesures nationales, le ministre Borloo avait mis en place un plan national de maîtrise du sanglier qui aujourd'hui est en route, mais qui va encore durer un certain nombre d'années avant d'arriver à une situation favorable.
Eh bien, je vous remercie François Klein. On aura encore d'autres questions à vous poser. Vous êtes intéressable sur le sujet, mais j'invite nos auditeurs à aller sur le site internet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur lequel nos auditeurs pourront trouver des informations complémentaires sur ces questions. Vous voulez rajouter un point? Non, pas spécialement.
Non.
Je vous remercie d'être venu nous voir et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.
Merci.